Chapitre 4. Jean-Marie est reçu à nouveau comme un fils par le curé d'Écully. Pendant les 16 mois de leur séparation, jamais M. Ballet n'a désespéré de son retour. Pas un seul jour il n'a oublié de le recommander aux prières de ses paroissiens. Désormais, le père de Jean-Marie, Mathieu Vianney, ne s'oppose plus à ce que son fils poursuive ses études chez M. Ballet et le jeune séminariste va loger à la cure même. Jean-Marie, d'ailleurs, sera un peu le maître Jacques à Écully. Il s'occupera du jardin, sera tout ensemble le domestique, le sacristain et l'enfant de cœur. Mais d'abord et avant tout, M. Ballet est son maître en spiritualité. L'exemple de ce prêtre, plus encore que son haut enseignement, galvanise Jean-Marie. Ce grand vieil homme, tout en os, dont ses paroissiens déclarent qu'il ne semble pas manger selon son nécessaire, est également une âme d'une sensibilité raffinée. Il pleurait en disant la messe, dira Catherine Lassagne. Vianney, auprès de lui, goûte les joies d'une obéissance absolue. Mais voici venir le dernier semestre de l'an 1812. Jean-Marie a 26 ans et M. Ballet doit songer sérieusement à temps à s'en séparer pour l'envoyer au séminaire. Les futurs prêtres, à cette époque, font une année de philosophie et deux années de théologie. Cependant, comme l'Église de France n'a pas encore achevé de panser ses blessures, comme on manque de prêtres, comme en maintes provinces la France est vraiment redevenue pays de mission, M. Ballet espère bien que l'on ne sera pas trop difficile pour son élève. Il lui semble toutefois que Jean-Marie aura besoin de quelque indulgence. Nous avons vu que les études lui sont devenues plus faciles, mais on ne peut vraiment pas dire qu'il soit doué ni pour le latin, ni pour les spéculations de la dialectique. Dans les moments difficiles, il continue à empoigner à deux mains sa pauvre tête. En fait, et malgré des efforts héroïques, il n'arrivera jamais à se familiariser avec la langue théologique. M. Ballet est sûr de tenir en Jean-Marie un bon prêtre, mais enfin, en ce temps-là, les maîtres ont une fâcheuse tendance à confondre l'intelligence et la mémoire. Toujours est-il qu'à la fin de l'année 1812, Jean-Marie Vianney est envoyé au petit séminaire de Verrières, près de Montbrison. La situation de cet établissement, comme celle de bien d'autres, est alors fort précaire. En effet, le cardinal Fesch, archevêque de Lyon et propre oncle de Napoléon, a déplu à son impérial neveu en prenant nettement parti, selon sa conscience, pour le Saint-Siège apostolique. Napoléon supporte moins que jamais que l'on résiste à ses volontés. Il en est résulté la fermeture de tous les petits séminaires du diocèse et Verrières n'a été rouvert qu'en secret, par un acte de courage que l'on doit certainement compter à l'actif du cardinal. Jean-Marie, une fois de plus, est plongé en plein drame, et il ne peut ignorer les grandes lignes de la tragédie qui se joue. Tension dangereuse entre l'autorité spirituelle de Rome et le souverain de la France, qui bafoue de plus en plus ouvertement cette autorité. On imagine le retentissement que tout cela peut avoir sur l'imagination et la sensibilité des jeunes séminaristes, dans un moment de leur vie où ils devraient concentrer en paix sur leurs études, sur l'éminence de leur vocation, l'essentiel de leurs méditations et de leurs forces. Il n'y a pas, d'ailleurs, que la situation religieuse qui s'achemine vers la catastrophe. Les événements politiques sont d'une gravité, d'une nouveauté exceptionnelle. Napoléon rentre à Paris le 18 décembre de l'an 1812, après la désastreuse campagne de Russie où nos morts ont jalonné l'immense chemin de la retraite. Le pape est toujours captif et l'opinion des catholiques français commence à s'exaspérer contre le dictateur. Par surcroît, on dit que la santé du Saint-Père est très ébranlée par ses malheurs. Dès cet instant, ruminant ses défaites militaires et la ruine de sa grande armée, l'empereur comprend qu'il doit se réconcilier spectaculairement avec le pape, obtenir de l'auguste vieillard un accord qui est au moins pour lui, Napoléon, l'apparence d'une victoire morale. On sait que les négociations et les conversations entamées dans cet esprit auront leur conclusion dès le début de l'année 1813. En attendant, Jean-Marie Vianney doit sûrement à ces événements énormes une petite faveur du destin. Le Corse, pour un temps, veut se faire conciliant et Verrières ne sera pas fermée. On nous dit que lorsque Jean-Marie est interrogé en classe pour la première fois, il ne comprend pas la question et doit garder le silence. Ses camarades aussitôt se moquent de lui. Nous ne devons pas perdre de vue qu'alors les professeurs des séminaires interrogent leurs élèves en latin. Le malheureux Jean-Marie, qui qui a déjà du mal à déchiffrer cette langue cruelle dans ses livres, ne peut absolument pas la parler, et tout cela ne va point faciliter ses progrès. Les mois passent, et la science de Jean-Marie reste incertaine. Ses professeurs le considèrent comme un élève d'une faiblesse extrême. Au mois de juin 1813, Jean-Marie écrit une lettre à son père, et l'abbé Monin publiera cette missive qu'un heureux hasard mettra dans ses mains. Le texte en question semble avoir été un peu oublié. Il est cependant singulier, d'abord par le style, assez pompeux et redondant, qui est bien celui d'un étudiant aux prises avec l'emphase fleurie des maîtres de l'époque, ensuite par les remords que le jeune Vianney manifeste. Car s'il est exact que sa conscience ne lui reproche rien touchant le non-accomplissement de ses devoirs militaires, Jean-Marie se désespère d'avoir causé à son père des tracas et des tourments. Il ressent aussi, très vivement, la peine que Mathieu Vianney doit éprouver d'être ainsi abandonné. C'est bien cela que le pauvre séminariste appelle son ingratitude, et l'on verra une fois de plus jusqu'où peut aller la délicatesse exquise de Jean-Marie. On trouvera dans ce texte la preuve que le jeune Vianney ne s'est point détaché des affections terrestres, qu'il demeure humain, profondément, et qu'il n'oublie pas ce qu'il doit aux siens. Il ne l'oubliera jamais d'ailleurs, et c'est une autre légende qui s'effondre. Mais voici des extraits de la lettre citée dans leur orthographe originelle. « Très cher père, permettez que le plus indigne de vos enfants vienne encore une fois goûter son ancien bonheur en s'entretenant avec un père dont il mérite si peu l'amitié après en avoir abusé longtemps d'une manière si indigne. Mais la tendresse d'un père n'a point de borne. Même après les outrages les plus grands, son amitié se rallume plus que jamais envers un fils ingrat qui ne mérite que mépris et que néanmoins vous avez comblé de bienfaits. Daignez, mon cher père, oublier tout le passé. » Que le bon Dieu me pardonne ainsi que vous me pardonnez vous-même, afin que nous soyons tous réunis un jour près de celui qui fait le bonheur des saints dans le ciel. Là, vos douleurs et mes regrets seront pour commencer jamais. Je présente bien mes respects à mon cher frère qui a partagé vos peines. C'est lui que je prie de me répondre à votre place. Pour mes études, cela va un peu mieux que j'aurais pensé. J'attends avec joie le moment heureux où je pourrai me rendre auprès de vous. Veuillez bien, très cher père, agréer les très humbles respects d'un fils qui ne mérite pas de vous avoir pour père, mais qui, vous voyant plein de tendresse, ranime sa confiance. Votre très humble serviteur, Jean-Marie Vianney. Au petit séminaire de Verrières, Jean-Marie n'est pas heureux. Il ne se console pas de la mort de sa mère, qui repose dans le cimetière de Dardilly. Il la regrette amèrement. Son âme la cherche. Il a besoin d'elle. Et d'autant plus que les difficultés de ses études le mènent parfois jusqu'au bord du désespoir et du découragement. À 26 ans, il est un assez vieil élève et quelques-uns de ses camarades plus jeunes continuent de le railler. Sa timidité, ses balbutiements en réponse aux questions des maîtres sont tournés en dérision. Les professeurs eux-mêmes ne l'épargnent guère. Il semble qu'à cette époque, par une magnifique compensation, la piété de Jean-Marie Vianney à l'égard de la Vierge devienne plus vive encore. Il prononce envers elle le vœu de servitude. Vianney, dans son isolement, trouve pourtant un compagnon, un certain Marcelin Champagnat, futur fondateur des Petits Frères de Marie, qui a lui aussi des démêlés avec les études en général et le latin en particulier. Mais personne parmi les maîtres de Verrières ne paraît s'être aperçu des vertus de Jean-Marie Vianney, de ses qualités spirituelles hors série. Ces échecs y sont bien entendu pour quelque chose. Et voici les notes de fin d'année de notre séminariste malchanceux. Travail, bien. Science, très faible. Conduite, bonne, caractère, bon. Au mois de juillet 1813, Jean-Marie revient à Écully afin d'y amorcer pour de bon, sous la direction de M. Ballet, son cours de théologie. On a justement noté que cette science de Dieu, où la science, la raison et la foi sont mêlées, ne décourage plus l'esprit du jeune Vianney. Il est certain qu'il récolte enfin les premiers fruits de sa méditation personnelle, d'un certain sens du recueillement et du silence devant les perspectives de l'infini divin. Le terrain commence à s'affermir sous ses pas, et l'enseignement personnel de M. Ballet ne fait qu'aider à sa première ascension, à sa première montée dans la joie. Jean-Marie connaît là probablement l'un des meilleurs, l'un des seuls moments heureux de sa vie. À la rentrée d'octobre, le grand séminaire Saint-Irénée à Lyon accueille le jeune Vianney qui a la joie d'y retrouver Marcellin Champagnat. À l'époque, certaines prescriptions du cardinal Fesch nous font un peu sourire et les biographes ont raison de penser qu'elles durent gêner fort le pauvre grand séminariste. Voici ce qu'a écrit à ce sujet l'abbé Lyonnais dans un ouvrage sur le célèbre oncle de Napoléon. Son éminence ne cessait de recommander, quand elle allait au séminaire, la tenue ecclésiastique. Elle voulait que ses prêtres fussent toujours propres, d'une mise convenable, avec un extérieur décemment arrangé. Dans cette vue, elle prescrivit l'usage de la poudre aux cheveux et des boucles aux souliers. Elle eut même désiré que les séminaristes de Lyon portassent, à l'exemple de ceux de Paris, le manteau long quand ils sortaient en ville. Et la vie studieuse se poursuit dans la simplicité, la piété éminente et discrète, la pénitence et l'application héroïque. Mais Vianney continue d'avoir peu de lumière sur le latin, et comme l'enseignement se fait dans cette langue, il n'en profite absolument pas. Il ne peut pas profiter des cours publics. La tentation du désespoir revient. Son désir du sacerdoce l'a envahi tout entier, est devenu sa hantise et sa passion. Or, au bout de quelques semaines, pensant que cet étudiant tardif ne réussira jamais, les directeurs le prient de se retirer, sans une plainte, sans une récrimination, sans un murmure, il obéit, il se retire. Et atteint peut-être à cette époque le fond de la tristesse et de la douleur, car il pense qu'il ne sera jamais prêtre. De retour à Écully, il pleure dans les bras de M. Ballet, le vieux maître. Lui n'imagine pas qu'il soit question de renoncer. Les efforts reprennent, avec l'étude des livres soigneusement choisis par M. Ballet. Sans le terrible latin, il est à croire que Vianney s'en tirerait, qu'il mettrait d'autant mieux à profit l'enseignement du curé, que sa propre maturité spirituelle est déjà forte. Mais les choses étant ce qu'elles sont, Jean-Marie désespère de surmonter l'obstacle. Cette étrange barrière, apparemment infranchissable, qui le sépare de l'autel. Malgré tout, il s'accroche à son travail et à son but. Plus tard, dans un moment de gratitude éperdue, le curé d'Ars dira, faisant allusion à ses malheurs de jeunesse, « Quand je pense aux soins que le bon Dieu a pris de moi, je ne sais plus que devenir. Je l'ai reconnu particulièrement deux fois. Lorsque j'étudiais, j'étais accablé de chagrin. Je ne savais plus que faire. Je vois encore l'endroit. Je passais à côté de la maison de la Bibot. Il me fut dit, comme si quelqu'un m'eût parlé à l'oreille, « Va, sois tranquille, tu seras prêtre un jour. » 3 mois après son départ du séminaire, Jean-Marie Vianney est présenté par M. Ballet à l'examen canonique qui s'ouvre vers la fin de mai de l'année 1814. Appel du candidat. Jean-Marie se présente devant ce jury, devant ses juges. Question latine, silence. Puis réponse incertaine et bredouillante. Que faire du vieux séminariste dans ces conditions? Les membres du bureau d'examen s'interrogent et, dans leur embarras, ils autorisent le pauvre abbé Vianney, il est tonsuré depuis 3 ans déjà, à solliciter son admission dans un autre diocèse. On imagine en quel état d'esprit Jean-Marie s'en revient le soir même au presbytère d'Écully. Vraiment, la mesure est comble, et il semble que M. Ballet ait bel et bien perdu son latin. Mais la confiance indestructible du vieux curé va jouer son rôle une fois de plus. Il court à Lyon dès le lendemain, plaide lui-même la cause de Vianney devant les plus hautes autorités du diocèse et finit par les convaincre. Pour reprendre les termes même de M. l'abbé Bernard Naudet, qui a fait sur le curé d'Ars toute la lumière humainement possible, deux personnages importants viennent examiner à domicile, et cette fois en français, le séminariste. Après l'avoir interrogé, l'un d'eux déclare « Monsieur Vianney en sait autant et même plus que la plupart des curés de campagne. Aucune décision n'est arrêtée, mais cette fois l'affaire prend une tournure nettement favorable. » Entre-temps, des événements sans mesure ont secoué l'Europe. L'Empire éphémère s'est effondré par pans entiers. Après la bataille de Leipzig, en octobre 1813, les nations coalisées ont envahi la France. Bonaparte n'a pas sauvé Napoléon, et le 11 avril 1814, l'empereur a signé son abdication. Oubliant la somme d'avanies, de trahisons et d'outrages dont il a été accablé par le conquérant, Le pape Pie VII reçoit à Rome avec une étonnante bonté deux membres en fuite de la famille impériale, Madame Mère et le cardinal Fesch, en sorte que le diocèse de Lyon se trouve privé de son chef. C'est le premier des grands vicaires, Monsieur Courbon, qui prend à Lyon la direction des affaires religieuses, et c'est à lui qu'il appartient de décider du sort de l'abbé Vianney. On sait que les prêtres manquent. Des témoignages parviennent à Monsieur Courbon, selon lesquels le disciple de Monsieur Ballet ne saura jamais le latin. Mais le vicaire général indulgent, tenant compte de la situation et de ce qu'il sait des efforts du pauvre Vianney, se contente en définitive de demander « L'abbé Vianney est-il pieux ?» On lui répond que le séminariste est un modèle de piété. « Eh bien, dit Monsieur Courbon, je l'appelle. La grâce de Dieu fera le reste. »